Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Gilles Pialoux, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris et vice-président de la Société française de lutte contre le sida. Nous avons rendez-vous régulièrement, Gilles Pialoux, pour faire le point sur l'épidémie. C'est en quelque sorte une piqûre de rappel. Et je voudrais commencer avec un tweet. C'est un tweet que j'ai lu du professeur Stéphane Gaudry, qui est chef du service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Bilan, voilà son tweet. Bilan de 24 heures de garde à vue en réa covidé. 5 décès, 69 ans.
C'est pas garde à vue, c'est en garde.
Oui, garde à vue. Garde en réa, oui, garde à vue. Garde en réa covidé. 5 décès, 69 ans, 67 ans. 66 ans, 47 ans et 37 ans, remplacés par 5 patients en réa, 60 ans, 53 ans, 51 ans, 41 ans et 35 ans. C'est ce que vous constatez, vous aussi ?
C'est ce qu'on constate, évidemment, sur le terrain, et c'est très important, les témoignages comme celui de Stéphane Gaudry. Et moi, chaque fois que je le peux et que vous me le permettez, j'invite notamment les communicants politiques à venir sur le terrain. Ils le font. Mais il faut venir aussi dans les réanimations, ça, plusieurs ministres l'ont fait, mais venir aussi dans les cellules de crise. Parce que c'est dans les cellules de crise qu'on a une visibilité globale de ce qui se passe, de comment on gère le pousser les murs, oui. Comment justement on gère le fait que ces patients sont effectivement plus jeunes. On le voit aussi dans mon service. C'est tout à fait saisissant, puisqu'on a eu un moment des patients plutôt de la quarantaine, entre 40 et 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui... C'est une mécanique aussi, hein, qui est liée aussi au fait qu'il y a une protection plus importante du vaccin sur la tranche la plus âgée, c'est indiscutable. Et effectivement, la réalité, il ne faut pas perdre de vue cette réalité-là. Là, on est en train de perdre le fil.
Vous avez l'impression... Vous me disiez tout à l'heure, il y a par exemple 7 femmes enceintes. Dans mon hôpital, en service covidé, enfin en réa.
Non, en maternité, mais hospitalisé à cause de la Covid.
Hospitalisé à cause de la Covid.
Pourquoi je vous disais ça? C'est parce que, par exemple, les femmes enceintes sont rentrées dans la liste des personnes à vacciner depuis le 27 mars. Donc, c'est quelque chose aussi à rappeler qui est important. Et puis, parce que c'est une épidémie dans l'épidémie. C'est-à-dire qu'on a des variants qui modifient. Alors, il y a une discussion, j'entendais du Cardonnet tout à l'heure discuter sur le fait de savoir si le variant anglais était plus grave. Il y a une étude française qui est en cours. On va le donner. Il y a des études anglaises qui montrent qu'il y a plus de gravité. Sur le variant brésilien, sud-africain, il y a quand même aussi des données qui donnent une plus grande sévérité. Et puis, effectivement, cette population plus jeune. Et quelque chose, franchement, je le dis parce que ça rejoint le tweet de tout à l'heure. Je ne peux pas m'habituer à ces 100 000 morts. Franchement, là, d'ailleurs, il n'y a même pas d'événement. On arrive à 100 000 morts. C'est comme si.
Mais on a la mort a disparu. On est habitué à la mort. On ne parle plus nombre de décès de moins en moins. On va en parler. On est à 99 135 décès en un peu plus d'un an. On va pas, au moment des 100 000 morts, il va y avoir les gros titres de la presse, mais...
Non, mais pour faire aussi...
Ça veut dire qu'on s'est habitué à ces morts, à ces décès, épidémie, à cette...
Jacques Bourdin, moi je suis d'une culture, j'ai fait 30 ans de lutte contre le sida, j'ai travaillé dans des services où on perdait un malade tous les 3 jours, je me suis jamais habitué, donc je vais pas commencer maintenant, et surtout, j'ai fait un édito dans l'Express là-dessus, le mot a disparu du discours politique. Vous avez vu, le président de la République n'a pas prononcé le mot mort, il dit endeuillé. Donc on parle plus des morts, on parle des familles, effectivement, qui vivent des choses tragiques. Donc on ment un peu aux Français, c'est-à-dire qu'il y a un choix de société, qui est un choix politique, qui est d'accepter que l'on ait chaque jour un Boeing qui s'écrase, c'est-à-dire 340 décès.
Et aujourd'hui, il faut le dire aux Français, vous pensez qu'on a accepté qu'il y ait 350 morts par jour?
Il y a une acceptation tacite. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation tacite parce que on a des mesures de freinage dont on va peut-être discuter.
Oui.
Et l'Institut Pasteur nous a montré très clairement qu'on était dans une mesure de freinage lent et que donc, de toute façon, on n'est pas au sommet, hein, on n'est pas, alors, il y a quelque chose qu'on va tordre le cou à un mot, ce n'est pas un pic. on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un pic. Vous qui connaissez le pic du Midi, par définition, quand on un pic, on sait ce qu'il y a derrière.
Oui.
Là, actuellement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et rien. Et quand on voit les courbes de la deuxième vague, on sait très bien qu'on n'a pas fait de pic. Il y a eu un seul pic, c'est quand on a confiné la première fois. Alors on va dire, ah oui, il va encore confiner. Je sais, j'ai compris, on ne confinera pas. Mais il faut accepter qu'on va vivre probablement un plateau descendant, lentement descendant, avec une saturation des hôpitaux, une réanimation qui va se vider le plus lentement possible. Et ça va avoir un coût, ça a un coût
donc,
économique.
Oui.
C'est un coût économique, c'est un coût social et évidemment c'est un coût humain.
C'est un coût humain. Ça veut dire que dans les 4 semaines qui viennent, vous ne croyez pas à un début de... de retour à la normale.
Ah non mais... Je comprends pas ces effets d'annonce. Alors évidemment, on les repousse. Je veux dire, fin février.
Le 15 mai, c'est ce que nous a dit le président de la République.
Fin février, Gabriel Attal nous a dit qu'on a un retour...
Le 15 avril.
Presque à la vie normale. Il a dit peut-être. Heureusement, il a dit peut-être.
Oui.
Mi-avril, c'est demain. Donc ce qu'on sait, nous, sur le terrain, c'est pas des modélisations, c'est juste la stricte réalité de la mécanique. C'est qu'on sait que dans les hôpitaux, de toute façon, on n'a pas atteint ce plafond ou ce mur de verre qui sera probablement fin avril. On va prendre des chiffres concrets. À Thonon, on a une réanimation qui a 20 places.
Oui.
Actuellement, on a 30 malades.
Oui.
30 malades, dont 29 ventilés. Et trois sous ce qu'on appelle l'ECMO, c'est la circulation extracorporelle, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de la réanimation. Donc tout ce qui nous a été dit, et ils sont effectivement plus jeunes, tout ce qui nous a été dit sur ils sont moins malades, ils restent moins longtemps, tout ça a été effacé par l'arrivée des variants. Donc voilà, je rejoins ce qu'avait dit le président de la République, c'est le virus qui donne le tempo.
Le tempo
et c'est les variants qui donnent le tempo.
Et ce sont les variants, on va revenir sur les variants, mais ce sont les variants qui donnent le tempo, mais je vous repose la question, ça veut dire que le 15 mai, nous ne retrouverons pas un début de vie normale.
Alors, tout dépend à combien on fixe le prix de la vie normale. Et on voit bien sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, les gens qui s'affrontent entre... On n'est pas un choix entre une liberté et des mesures restrictives.
Oui.
On est en choix entre deux types de restrictions. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
On est vraiment encore en guerre. Donc il va falloir choisir deux niveaux de restrictions. Et qui soient acceptable pour le système sanitaire, acceptable pour la population. C'est toute la complexité actuelle.
Oui.
Et puis je crois franchement qu'il faut arrêter aussi de penser, moi je fais partie de ceux, comme Antoine Flahault, comme certains représentants de l'OMS, le vaccin n'est pas la solution. Le vaccin est une partie de la solution.
Attendez, parce que ça c'est important ce que vous dites.
Oui, mais c'est important.
Ce n'est pas la solution, parce qu'on a l'impression...
Non, parce que là, ça veut dire que c'est vaccin contre liberté totale. On n'y arrivera pas, on le sait pourquoi, il y a ces mécaniques. On n'y arrivera pas parce que le niveau de vaccination qui est nécessaire pour l'immunité collective, c'est probablement 90% des adultes.
Oui.
Et quand vous vaccinez 90% des adultes, je vous passe le calcul, mais vous arrivez à 69% de gens qui sont protégés, parce que déjà, il n'y a pas les adultes, il y a l'impact sur la transmission, ça a été montré.
Oui.
Donc de toute façon, il faudra aussi vacciner les enfants, et ça mettra du temps, parce qu'il faut déjà avoir les données. Donc, l'idée, pour prendre une image simple, c'est la sécurité routière. La gestion de la pandémie, ça sera quelque chose dans lequel il faudra avoir, ne pas remplacer l'airbag par la limitation de vitesse, ne pas remplacer la limitation de vitesse, ça sera de la prévention combinée. Le vaccin sera l'outil central. Mais pourquoi j'ai ce masque? J'ai ce masque pour faire passer un message. Je suis vacciné Pfizer, parce que j'avais des facteurs de risque.
Oui.
Et je mets ce masque parce qu'il y a une incertitude encore sur l'efficacité des vaccins par rapport aux variants, vous le savez, sur le fait que on diminue complètement la transmission. Donc il ne faudra pas lâcher les mesures barrières. Vous voyez, il faudra maintenir un niveau.
Vous faisiez allusion à Antoine Flahault tout à l'heure, l'épidémiologiste, qui dit aussi les rassemblements à l'extérieur, aucun cluster. Toutes les études le montrent. Il n'y a aucun cluster dans les rassemblements à l'extérieur.
Après, on joue sur les mots. C'est-à-dire que déjà, il faut aller les chercher, les clusters sur les rassemblements extérieurs. Parce que, par définition, vous savez, prendre les quais de GMAP et arriver à tester tout le quai de GMAP. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour taquiner Antoine Flahault, que je connais bien. Mais je veux dire, déjà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cluster qui n'existe pas. Il faut déjà aller les chercher. Vous voyez ce que je veux dire, hein?
Bon.
On peut parler des aéroports, par exemple. On dit, il n'y a pas de cluster.
Alors, les aéroports. J'allais y venir. Nous allons parler des vaccins. Mais je je viens aux aéroports.
Non, vous avez compris la prévention combinée. La prévention combinée. Le vaccin sera partie de la prévention combinée.
Bah, alors,
c'est-à-dire le tracé isolé qu'on a loupé maintenant, le dépistage massif, et là, les bonnes nouvelles, c'est les tests salivaires, les autotests, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. La pression vaccinale, maintenir des gestes barrières jusqu'à qu'on ait un peu de visibilité sur les variants. Et pour l'instant, on ne sait pas. Donc, il faut que les Français acceptent.
On n'en a pas fini avec ce virus. Première chose, il faut bien se dire qu'on n'a pas fini avec ce virus. Et deuxième chose, il faut bien se dire que ce n'est pas le vaccin qui seul va nous protéger du virus.
Mais il faut vacciner. Et le vaccin, c'est maintenant.
Alors, je vais revenir au vaccin et aux vertus du vaccin. Mais le contrôle dans les aéroports français, est-ce qu'il faut renforcer les contrôles ?
Bah, là, on est plutôt dans un système qui est plus proche de la sensibilisation citoyenne.
D'accord, j'entends.
Prenons le Brésil.
Oui, prenons le Brésil.
J'ai découvert hier...
50 personnes en vous écoutant par jour arrivent du Brésil.
Ouais, enfin, oui, 1000 par semaine. Enfin, non, mais c'est pas ça. C'est
350 par semaine.
Vous savez que on sait depuis Contamine Montjoie, le premier cluster, Contamine Montjoie, février 2020.
Oui.
On sait qu'une personne peut avoir jusqu'à 70-120 contacts.
Oui.
Donc quand vous dites ces 50 personnes, il faut aussi imaginer le scénario du pire, c'est-à-dire de quelqu'un qui est très contaminateur, qui ne se sait pas contaminer parce qu'il a fait ce que le gouvernement recommande. Qu'est-ce qu'il recommandait pour le Brésil ? J'ai regardé hier soir. Que vous ayez une PCR de moins de 72 heures pour prendre l'avion.
Oui.
On vous demande sur l'honneur que vous allez être confiné 7 jours. Pourquoi 7 jours ? Personne ne confine 7 jours avec les variants brésiliens. Oui. Nous, les soignants, c'est au moins 10 jours. Donc, enfin, ça, c'est les petites aberrations. Et éventuellement, si j'ai bien écouté le ministre des Transports, on leur propose parfois des tests antigéniques. On peut pas faire comme ça.
Bon, je sais donc que c'est constitutionnel. Si j'ai bien compris, une personne qui vient du Brésil, quarantaine pendant 10 jours, quarantaine surveillée.
Et puis avoir les moyens de les surveiller, c'est pas pas les mettre en prison.
Non, mais
c'est les responsabiliser.
Quarantaine surveillée pendant 10 jours.
Voilà, utiliser les applications tous anti-Covid, leur faire des tests, tester les personnes qui ont été contacts. Et on ne peut pas plaisanter avec le variant brésilien. Regardez ce qui se passe.
Vous inquiétez ce variant brésilien.
Complètement. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est la brésilianisation du variant anglais. C'est-à-dire que le variant anglais a déjà acquis cette mutation qui existe dans le variant sud-africain. Donc tout ça bouge, même si effectivement les chiffres sont rassurants, puisqu'on a globalement autour de 5% de variants sud-africains, en tout cas en Île-de-France, et effectivement très peu. Mais on en a vu des cas de variants brésiliens. Mais il faut se méfier, parce que cette géostratégie, elle dépend de comment le virus variant anglais va occuper l'espace. Pour l'instant, il occupe tout l'espace. Mais personne ne peut prédire ce qui se passera en octobre. Donc, il faut être extrêmement vigilant avec ces variants qui, je le rappelle, ont sans doute plus de gravité, mais ont surtout un échappement au vaccin actuel. Donc, ce qui amplifie la politique qu'Alain Fischer a bien expliqué, de vacciner maintenant avec tout ce qui est offert, y compris l'AstraZeneca, je sais que ça va choquer, dans les limites, effectivement, des recommandations. Mais c'est maintenant, parce que la situation ne peut être que plus compliquée s'il y a ces variants-là.
Donc, il faut... Alors, je vais revenir au vaccin, mais je voudrais... Est-ce qu'il ne faut pas aussi rappeler que la réanimation n'est pas un traitement ? Comprenez ce que je veux dire.
Je la reprendrai, votre expression.
C'est vrai. Parce que certains pensent qu'il suffit d'augmenter le nombre de lits en réanimation pour gérer l'épidémie.
Oui, mais ça, c'est un vieux débat. C'est-à-dire que, vous savez, c'est 15 ans de... Enfin, je ne vais pas faire de la politique, on va dire Pialouf, c'est encore la politique, mais non, c'est 15 ans de fermeture de lits. Donc, évidemment, le Covid est venu sanctionner quelque chose qui remonte. Vous en parlerez avec les politiques. Mais sur la réanimation, il y a aussi un fantasme. Excusez-moi, mais là, il y a des montages sur Brut. On est passé à 7 000, puis à 10 000, puis à 11 000, puis à 12 000. C'est du déclaratif. Le but n'est pas de mettre un lit avec une machine, c'est de mettre un lit avec une machine et des gens compétents pour s'en occuper. On sait bien que le problème, c'est les gens compétents.
Oui.
Hier, en cellule de crise, on était, nous, à 30 lits pour notre réanimation, qui est à 20 lits. Je vous rappelle. Et on était en train de discuter si on pouvait passer à 32. Mais la discussion de passer de 30 à 32 en réanimation à Thonon se heurte à une réalité c'est qu'on n'a pas, enfin à la minute où je vous parle, on n'a pas de personnel pour. Donc oui, vous comprenez bien que les 3 000 lits du président...
Vous comprenez ce que je veux dire. Lorsque je dis la réanimation n'est pas un traitement.
Mais c'est-à-dire que
pour certains, il suffirait d'augmenter le nombre de lits en réanimation pour pouvoir gérer parfaitement l'épidémie. C'est pas vrai.
Je pense qu'il faut inviter des caméras dans les centres de réadaptation des gens qui sont passés 23 semaines intubés pour montrer aussi ce qu'est la réalité de la réanimation. Bien sûr que cette réanimation a fait énormément de progrès et qu'elle sauve des vies et qu'on a fait effectivement une diminution de la mortalité malgré ces variants. Mais alors, il faut voir aussi qu'il n'y a pas que la mort. Il y a aussi ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire les séquelles de la réanimation, les séquelles physiques, les séquelles psychiques. Donc c'est pas un traitement au sens où c'est pas un objectif, mais évidemment c'est une voie pour sauver les vies aussi.
Alors un mot sur le débat autour du futur ou pas certificat sanitaire, pas sanitaire comme on voudra en Allemagne. Si l'on présente un test négatif daté du jour, on peut entrer dans des commerces dits non essentiels. J'ai vu cela. L'Allemagne est en train de mettre en place ce système-là. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France? Est-ce que vous pensez que...
Moi, c'est quelque chose que j'ai réclamé il y a plus de 6 mois. Je pense que c'est une des éléments de sortie de la prévention combinée.
La prévention
d'avoir
combinée.
Un code QR, c'est pas un truc intrusif, c'est comme une carte verte. Ça inclura les gens.
Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ouvrir ce débat dans ce pays?
Mais parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat citoyen, il n'y a pas de débat parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a des décisions politiques, et puis quand c'est prêt, voilà, les autotests, on les a attendus, ils sont là, mais voilà, on fait avec ce qu'on nous donne. Et je pense que ce débat sur les libertés individuelles, quand les gens vont comprendre, notamment je pense au secteur de l'événementiel ou de la restauration, que c'est un outil qui favorise, ils vont devenir militants de ce code QR.
Mais bien sûr.
Évidemment qu'il faut favoriser ça. Au début, on nous disait, il n'y a pas de vaccin. Ben maintenant, il y a une partie de vaccins qui arrive. Et puis,
16% de la population vaccinée en France maintenant.
Avec une injection.
Première dose, oui. Qui protège Qui protège vraiment la première dose?
Alors, à part pour le vaccin chinois, vous avez vu, il y a un problème, elle protège. Oui, elle protège. On est, par exemple, dans les études de Pfizer, c'est compliqué parce que pendant les 10 premiers jours, de 0 à 10 jours, globalement, il faut laisser les anticorps monter. Mais entre 10 jours et la deuxième injection, vous êtes autour de 78-80% de protection.
Oui.
Des formes graves et protection de la réanimation. Donc oui, la première dose protège.
Il sera difficile de vacciner 90% des adultes?
Ah ben je pense que ça sera difficile, voire impossible, parce que vous avez vu que à la fois il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner, puis vous avez de toute façon un noyau qui ne se vaccinera jamais.
Mais alors, je repose la question, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire? La Cour européenne des droits de l'homme dit c'est un acte démocratique de solidarité.
Je pense que déjà, ça fait un moment qu'on devrait avoir une discussion, alors je ne sais pas si elle est parlementaire, pour savoir qu'il y a certaines professions qui ont une vaccination obligatoire. Et par exemple, à commencer par les soignants et quelques professions essentielles. Et voilà, le débat est toujours pas ouvert. C'est vrai que ça monte doucement. Nous, on est autour de... ça monte plus vite chez les médecins, mais ça, c'est toujours, on l'avait vu avec la grippe, que chez les infirmières et les aides-soignants. On est autour de 40%, mais ça reste encore un débat à ouvrir, l'obligation vaccinale.
Je ne sais pas, rendre la vaccination obligatoire aux salariés qui ne sont pas en télétravail aussi.
Alors,
non.
Oui, mais il y a aussi l'application là, le test QR et puis les tests. On pourra très bien imaginer que ces autotests et ces tests salivaires puissent aussi permettre, en plus du code QR là ou de l'application, puissent permettre de rentrer dans l'école, dans les lycées et effectivement dans les lieux où le télétravail. Mais le télétravail, excusez-moi, c'est pas ma spécialité, mais il se trouve que j'ai des patients qui me racontent comment c'est l'employeur qui les empêche de télétravailler. Donc là aussi, je sais qu'il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement, mais il faut quand même... Voilà, je pense qu'il y a du contrôle à faire. Il y a du contrôle à faire sur la quatorzaine, il y a du contrôle à faire sur le télétravail, parce qu'il faut que les personnes puissent télétravailler le plus possible. Ça, c'était très clair. Ça fait partie de la prévention combinée, ça aussi.
Oui, un mot sur les vaccins. AstraZeneca, comment inciter les Français à utiliser AstraZeneca?
AstraZeneca, personne ne nous a rendu service, à commencer d'ailleurs par AstraZeneca. C'est-à-dire ni les médecins, ni les journalistes.
Mais le président de la République a eu tort de suspendre la vaccination AstraZeneca.
Je l'ai dit ici, ça a choqué. J'ai dit toute suspension est une suspicion. Oui. Donc c'est comme la diffamation, c'est-à-dire qu'il en reste toujours quelque chose. Oui. Donc à partir du moment où vous avez suspendu, ce sont des événements graves. qu'est-ce qui sont arrivés. C'est pas du tout la phlébite que vous avez si vous prenez l'avion sans bouger. Ça, c'est des événements graves qui sont tout à fait exceptionnels, pour lequel effectivement il y a une suspicion, mais on est de l'ordre d'un événement. En Europe, c'est 30 cas pour 2 millions d'injections. Donc on est dans un événement grave, exceptionnel. Et tout le monde l'a dit, toutes les instances l'ont dit, le rapport bénéfice-risque est en faveur du vaccin. Donc il faut dire aux gens, vaccinez-vous avec ce qu'on vous propose.
Oui, et le maximum.
Et le maximum, parce que c'est exactement ce qu'a dit le Conseil scientifique en janvier. Cette course contre la montre est en train de s'accélérer, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur les variants brésiliens.
Est-ce qu'il faut aller jusqu'à vacciner les enfants pour convaincre chacun de se faire vacciner?
Ah ben, si on veut une immunité collective, compte tenu des exigences que le variant anglais nous a mis à 80-90%, on y passera. Et d'ailleurs, Pfizer a déjà fait un dépôt à la FDA, il y a 2 jours, pour la tranche, je crois, 12-16 ans. Donc, bien sûr, ça passera par...
Les Américains et les Britanniques, par exemple, vaccinent les enfants contre la grippe.
Et beaucoup plus que nous, oui.
Beaucoup plus que nous.
Et surtout dans une perspective qui n'est pas de protection tellement de l'enfant, mais de protection de la transmission de l'enfant à son entourage, et notamment aux entourages fragiles.
Je voudrais terminer, Gilles Pialoux, sur le vaccin contre le sida. Ça avance vraiment?
Alors, le vaccin contre le sida, moi, j'y ai passé 17 ans de ma vie, donc je peux en parler en 2 secondes. C'est beaucoup plus complexe, parce que il y a le fantasme qu'il n'y avait pas autant d'argent, que le marché était moins important. J'entends mes patients me dire ça et tout ça. Il y a eu beaucoup de moyens. Il y a eu une recherche quand même qui a buté sur une variabilité du virus qui est beaucoup plus du sida, qui est beaucoup plus compliquée que celle de la Covid. Je pense que la recherche contre la Covid va bénéficier, va booster la recherche vaccinale. Et d'ailleurs, il y a des essais qui commencent. Et probablement que les vaccins ARN vont aussi apporter un renouveau à cette recherche-là. Et comme on l'a vu d'ailleurs du sida vers l'hépatite C ou vers d'autres maladies, je pense que cette recherche et cette plateforme de recherche qui ont été développés pour le Covid, vont bénéficier à d'autres pathologies, dont la lutte contre le sida, je le pense.
Merci, professeur Gilles Pialoux, d'être venu nous voir régulièrement.
Merci à vous de m'inviter.
D'ici un mois et demi, pour faire le point, on a besoin de savoir. Il est quelle heure ? 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.